Transistor. Édition spéciale, Transistor aux journées de l'écho.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview en direct des journées de l'économie qui se passe à Lyon les 9, 10 et 11 novembre. Nous recevons aujourd'hui Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour.
Alors nous vous recevons à une occasion les journées de l'économie, une autre la parution en mai dernier de votre livre « La France d'après », duquel on va parler un petit peu pendant cette interview, mais aussi l'occasion avec vous de revenir sur l'actualité de la crise de l'euro qui nous donne quelques surprises tous les jours en ce moment. La première question que j'ai envie de vous poser va faire le lien entre les deux. Dans votre livre « La France d'après », on a un peu l'impression que vous commencez par l'Europe d'après. Est-ce que la France d'après passe nécessairement par l'Europe selon vous et selon quelle modalité ?
Oui, effectivement, vous avez raison. Dans le livre, j'associe très étroitement les perspectives pour l'Europe et les perspectives pour la France, parce que aujourd'hui, plus que jamais, c'est déjà progressivement vrai depuis 1957, mais aujourd'hui, plus que jamais, l'avenir de la France ne peut pas être dissocié de celui de l'Europe. On le voit bien d'ailleurs dans la crise de l'euro et les développements qu'elle prend aujourd'hui.
Très bien. Et donc, votre perspective principale, c'est d'abord de montrer quand même, si on se limite à l'Europe, donc, qu'on passe d'une crise financière à une crise sociale, voire que la crise sociale est fondamentale par rapport à la crise financière.
Ce que je voulais montrer surtout concernant l'Europe, c'est que il n'y a pas de problème en Europe, ou plus exactement, il n'y a que des problèmes internes pour l'essentiel. C'est-à-dire que si on regarde l'Europe de loin comme un ensemble, nous ne sommes pas a priori du tout dans une situation aussi défavorable que les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les comptes extérieurs de l'Union européenne, les comptes extérieurs de la zone euro sont quasiment équilibrés. Hein. L'Europe consomme quasiment autant qu'elle produit. Même en 2008, quand il avait fallu acheter beaucoup de pétrole et de gaz cher, ça avait été le cas. Donc on n'a pas besoin, enfin donc là aujourd'hui on est en train d'essayer de tendre la sébile en Chine en particulier pour résoudre le problème de la dette de la zone euro. Si on le fait, c'est pour des raisons internes, mais on n'en a a priori pas besoin contrairement aux Américains. C'est la même chose sur le plan de l'épargne. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a une épargne importante. L'endettement des ménages est très inférieur à celui des ménages américains. On n'est pas sur ce plan-là du tout dans la même situation que les États-Unis. Et enfin, même sur ce qui paraît aujourd'hui le problème principal de l'Europe, la crise des dettes publiques, on n'est pas non plus du tout dans une situation aussi défavorable sur le plan des dettes publiques que les États-Unis d'Amérique. Hein. On a 10 points de moins de dette publique dans le PIB, et on a une dynamique de hausse de la dette publique qui est beaucoup plus limitée qu'aux États-Unis. Donc si on regardait l'Europe de loin et qu'on se contente de regarder ce que les économistes appellent ses fondamentaux, on devrait conclure que l'Europe a beaucoup plus de chances de s'en sortir plus facilement, plus rapidement, mieux de cette crise que les États-Unis. Mais vous savez que c'est pas le vrai et que c'est pas le cas.
On regarde pas l'Europe de loin, on regarde la Grèce, on regarde l'Italie, on regarde l'Espagne. Et est-ce que c'est un appel à, comment dire, à un pas vers le fédéralisme, vers votre analyse?
La thèse, c'est clairement que si on s'en sort pas, et manifestement on s'en sort pas, c'est d'abord pour des raisons essentiellement internes. C'est des raisons internes qui sont anciennes. Il y a une partie qui date d'avant l'euro, l'introduction de l'euro. On a construit une Europe marché où c'est la concurrence de tous contre tous. Et c'est un système qui génère a priori par lui-même peu de croissance, puisque chacun a intérêt à limiter sa demande intérieure, ses coûts du travail, donc sa demande intérieure, pour exporter davantage chez les autres. Mais quand un pays fait ça, il est gagnant. Mais quand tout le monde fait ça en même temps, tout le monde est perdant. Donc c'est pour ça essentiellement que depuis 30 ans, on avait très peu de croissance. Mais est venu là-dessus se rajouter des éléments qui sont liés effectivement à à l'euro. L'euro a résolu une partie des problèmes de dumping qu'on avait en interne sur les dettes, sur les taux de change. Il a aussi permis d'avoir des taux d'intérêt plus bas qu'avant. Hein. Avant qu'on ait l'euro en France, il fallait avoir des taux d'intérêt très élevés, notamment parce que pour tenir le coup face aux Allemands, etc., etc. On n'a plus eu tout ça. Mais ça a créé d'autres problèmes sur lesquels on est en train de buter aujourd'hui. Ces problèmes, c'est des problèmes, c'est le problème suivant essentiellement, et il n'est pas tellement dans le débat public, c'est que tout le monde a eu le même taux d'intérêt, et il restait des petites divergences d'inflation, même si elles n'étaient pas aussi importantes qu'avant. De ce fait-là, avant qu'il y ait l'euro, le pays d'Europe qui avait ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels les plus bas, c'est-à-dire une fois l'inflation déduite, c'était l'Allemagne, et les taux d'intérêt réels les plus hauts, c'était la Grèce. Après qu'on ait eu l'euro, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était l'Allemagne qui a eu des taux d'intérêt réels assez hauts parce que la BCE a fixé un taux pour tout le monde. Et la Grèce, l'Espagne et l'Irlande aussi ont eu des taux d'intérêt réels très faibles, voire négatifs. Et quand les taux d'intérêt réels sont négatifs, vous avez intérêt à vous endetter parce que vous enrichissez en vous endettant si vos revenus suivent l'inflation. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors c'est ce qui s'est passé avec de la dette publique en Grèce, avec des, en plus des truandages derrière, etc. Mais c'est ce qui s'est passé surtout avec de la dette privée. Hein, en Irlande, en Espagne, etc. C'est pas un problème de dette publique qu'on a eu. C'était au contraire des très bons élèves du pacte de stabilité avant la crise. Mais c'est des problèmes de dette privée. Et c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui, dans la mesure où il a fallu transformer une partie significative de ces dettes privées en dette publique dans la crise. Et que c'est ça qui nous plombe aujourd'hui. Bon, ces problèmes sont graves, sérieux, non pas parce qu'on n'aurait pas les moyens de les régler entre nous en interne, mais c'est que parce que les régler entre nous en interne aujourd'hui, ça implique la prise en charge des dettes des uns par les autres, partiellement au moins, et c'est là-dessus que ça coince.
Et justement, sur la question du cas grec, on voit qu'il y a eu une sorte de crise politique en Grèce, entre l'opposition et le PASOK qui était au pouvoir, avec, enfin qui est toujours au pouvoir, mais qui avait pour Premier ministre Georges Papandréou. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de la part des égoïsmes nationaux ou des crises nationales dans le traitement de la dette à l'échelle européenne ?
Oui, là, aujourd'hui, il y a tout lieu de s'inquiéter très, très fort.
Et avec le cas italien, en plus, dans l'actualité.
Oui,
en plus, là,
qui oui le cas italien, et c'est tout à fait une autre dimension. Hein. Donc l'économie italienne, c'est 8 fois l'économie grecque. Les 1 900 milliards d'euros de titres de dette publique italiens, c'est 20% du PIB de la zone euro. On parle plus du tout de la même chose, et là, on est un peu désarmé. Mais si vous voulez, ce qui fait que le cas grec, c'est en soi une toute petite affaire. Donc la Grèce, c'est 2,5% du PIB de la zone euro. La dette grecque, c'est 3,5% du PIB de la zone euro. Je veux dire, c'est un gros problème si on en annule la moitié, mais ça fait jamais que 1,7% du PIB de la zone euro. Alors c'est pas négligeable, hein, ça fait un choc, mais ça paraît pas du tout de nature à nous emmener dans le mur. Et
c'est
pourtant, on n'a pas réussi à le résoudre en 2 ans, et c'est pour ça que ça dégénère maintenant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à le résoudre ? Parce qu'on a eu des stratégies punitives inefficaces. Le risque, c'est qu'on continue à en avoir avec l'Italie, et là, ça va très loin. À savoir, quand on a imposé un tel niveau d'austérité à la Grèce, que ça a fait plonger le pays dans la récession. Ça fait 3 ans que l'économie grecque est en récession. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en récession, si vous avez 100% du PIB de dette publique au début de l'année, que vous faites 5% de récession, à la fin de l'année, même si votre budget a été totalement équilibré pendant toute l'année, vous n'avez pris aucune dette supplémentaire, vous vous retrouvez quand même avec 105% de dette publique à la fin de l'année. Donc votre dette augmente toute seule du fait de la récession. Donc stratégie fondamentalement inefficace qu'on a eue vis-à-vis de la Grèce. La Grèce, elle avait 130% de dette publique par rapport à son PIB en 2008. Elle en a 160 aujourd'hui. Hein. On n'a pas du tout aidé les Grecs à résoudre leurs problèmes avec le type de stratégie qu'on a eue. Et elle est devenue socialement et politiquement, enfin l'austérité qu'on impose aux Grecs est devenue socialement et politiquement insupportable en Grèce même, d'où les problèmes que vous évoquiez avec Papandréou, etc., etc. Si vous voulez, le problème en gros, c'est que la stratégie que veulent imposer principalement les autorités allemandes, mais pour l'instant les autorités françaises se sont alignées là-dessus, à savoir de dire il faut que tous les pays d'Europe adoptent le même type de stratégie que celle qu'a suivie l'Allemagne pendant les années 2000, donc une stratégie d'austérité, de réduction des coûts du travail très forte, de mise en cause de la protection sociale très forte qu'a suivi l'Allemagne pendant les années 2000. Il faut que les autres l'amènent aujourd'hui. Donc je comprends bien psychologiquement et politiquement, l'idée, c'est pas supportable pour des Allemands de dire on va payer pour les autres. Nous, on s'est beaucoup serré la ceinture, on va payer pour les autres sans qu'ils se serrent la ceinture à leur tour. Je comprends très bien, mais c'est mortel pour l'Europe parce que les Allemands... bon, je ne crois pas du tout qu'ils se soient fait du bien pour l'avenir avec le type de politique qui a été menée par Schröder au début des années 2000 en Allemagne, etc. Je pense que, enfin, ils ont des forces évidentes sur le plan industriel, etc. Mais l'Allemagne, c'est un des pays aujourd'hui où il y a 2,5 millions de personnes qui travaillent pour moins de 5 euros de l'heure, où la pauvreté, les inégalités ont le plus explosé avec la Roumanie et la Bulgarie dans les années 2000. Enfin, je pense qu'ils ont fondamentalement remis en cause les fondements même de leur compétitivité qui tenait à une assez forte cohésion sociale. Le modèle allemand, je pense qu'il faudra en reparler dans 10 ans. Ils n'ont pas, en particulier, l'austérité qu'ils ont fait, c'est d'avoir très peu de dépenses publiques. Donc ils n'ont toujours pas d'école toute la journée. Ils ont toujours très peu de crèches. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ils sont dans une situation démographique très, très inquiétante pour l'avenir, etc., etc. Je ne crois pas du tout qu'ils se soient fait du bien avec ce type de politique. Mais enfin, ils n'en ont pas eu d'inconvénients majeurs. Et l'Europe non plus, mais uniquement pour une seule raison, c'est que pendant qu'ils faisaient ça, les Grecs, les Irlandais, les Portugais, les Espagnols, etc., s'endettaient comme des fous pour acheter les produits allemands. Si on se met tous à faire le même type de choses que ce que les Allemands ont fait au début des années 2000, on est mort parce que on va tomber dans la récession et que, quelles que soient les mesures d'austérité qu'on prenne, les problèmes de dette publique vont s'aggraver au lieu de s'alléger. Et donc ça, c'est déjà la dynamique qu'on a connue pour la Grèce depuis 2 ans. Ça risque d'être la dynamique dans laquelle l'Italie rentre. Si c'est l'Italie qui rentre dans cette dynamique-là, c'est tout à fait autre chose. On n'en sortira pas.
Et pour terminer peut-être sur le cas grec, le point de cette semaine titrait sur les erreurs de l'histoire. Et parmi ces erreurs de l'histoire, place l'intégration de la Grèce dans la zone euro. Diriez-vous la même chose ?
L'intégration de la Grèce dans la zone euro, oui, je pense que rétrospectivement, on peut dire que c'était pas une bonne idée, que l'économie grecque, les structures politiques grecques n'étaient pas prêtes au choc que cela impliquait. On le voit bien aujourd'hui aux résultats que ça a eu. Le problème, c'est que ça sert à rien de s'interroger sur ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire il y a 10 ans. La question qui se pose aujourd'hui et qui est posée dans le débat public, c'est est-ce que sur la base de cette analyse, la Grèce doit sortir de la zone euro ? Et là, à mon avis, la réponse est vraiment tout autre. C'est-à-dire que je pense que ce serait pas du tout une bonne idée pour les Grecs eux-mêmes. Hein. Donc l'idée, c'est de dire c'est plus facile de rétablir sa compétitivité avec une dévaluation que en ayant en serrant les coûts salariaux, etc., pendant de très longues années dans le cadre d'une monnaie qui est la même que celle des autres. C'est vrai en soi, c'est plus facile. Si la Grèce quittait l'euro aujourd'hui, sa monnaie vaudrait entre 50 et 80% de moins qu'aujourd'hui, et d'un coup, sa compétitivité extérieure serait améliorée. Mais il faut bien mesurer ce que ça veut dire pour les Grecs eux-mêmes. Ça veut dire que la Grèce est un pays qui importe beaucoup aujourd'hui. Ça veut dire que le pétrole vaudrait 80% de plus qu'aujourd'hui pour les Grecs. Ça veut dire que tous les produits électroniques, etc., que nous, on importe, mais qu'eux aussi importent, vaudraient 80% de plus. Ça veut dire qu'ils vivraient très mal, d'une part. Et d'autre part, ça veut dire que ils ne pourraient probablement plus du tout emprunter à l'extérieur s'ils font ça. Et le seul moyen que ce soit intéressant, c'est que ils transforment toute leur dette qu'ils ont vis-à-vis des autres, aujourd'hui libellés en euros, en des dettes en drachmes, et qu'ils les dévaluent en même temps. S'ils ne font pas ça, ça veut dire que leurs dettes vis-à-vis de l'extérieur pèsent beaucoup plus lourd qu'avant, ils sont encore plus mal qu'avant. Hein, donc ils doivent faire ça pour que ça vaille le coup. Mais s'ils font ça, ça veut dire qu'ils sont morts pour des années sur les marchés financiers extérieurs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus emprunter à l'extérieur. S'ils ne peuvent plus emprunter à l'extérieur, ils ont aujourd'hui 10% de leur PIB de déficit public, en gros. Ça veut dire qu'ils sont obligés de réduire les salaires des fonctionnaires à nouveau de manière très importante. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'équilibrer du jour au lendemain leurs comptes extérieurs. Hein, ils n'ont plus personne qui leur prête. Ça implique une austérité qui est encore beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Donc je pense que pour les Grecs eux-mêmes, c'est une fausse bonne idée. Et d'ailleurs, on l'a bien vu hein, sur cette histoire de Papandréou et de référendum. Et il a suffi que Merkel et Sarkozy disent « Ok, vous faites votre référendum, mais si c'est non, vous sortez de l'euro » pour que tout de suite, oh là là, on arrête tout, on discute. Donc les Grecs le savent. Mais ce serait pas bon non plus du tout, à mon sens, pour le reste de la zone euro, parce que ça crée un précédent. On voit déjà aujourd'hui les inconvénients qu'il y a eu. Il n'y avait pas trop d'autres choix, mais les inconvénients qu'il y a eu à décréter que toute la dette grecque serait pas remboursée. Tout de suite, ça a accru les inquiétudes sur la dette italienne, espagnole, etc., etc., et ça nous a amené dans la dynamique où on est aujourd'hui, avec l'Italie en particulier. Mais là, si la Grèce sort de l'euro, c'est un niveau d'inquiétude et de risque de contagion beaucoup plus fort. Et on dit les dettes grecques valent aujourd'hui 20% de ce qu'elles valaient hier, s'ils sortent de l'euro, en gros. Combien vaudront les dettes portugaises et, enfin, qui sera le prochain? Combien vaudront les dettes portugaises, espagnoles, italiennes, etc., etc. Et donc là, on crée un niveau de risque de contagion, de panique, de peur, etc., qui va amener des taux d'intérêt encore plus élevés que ceux d'aujourd'hui pour tout le reste de la zone euro. Et ça, on n'y a vraiment pas intérêt tout de suite. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Enfin, oui. On n'aurait pas dû le faire il y a 10 ans.
Mais ce serait encore une plus grosse erreur de le faire.
Aujourd'hui, ce serait probablement une plus grosse erreur de le faire.
Alors pour continuer avant d'en venir à la dernière question qui sera sur la spécificité de la France, sur une dimension beaucoup plus grande qui fait un peu votre spécificité à vous, si je puis me permettre, dans votre livre, c'est la manière dont vous alliez crise financière, crise sociale et crise écologique assez systématiquement. Vous avez cette phrase notamment, l'Europe ne sera pas sociale, elle peut être écologique. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous articulez écologie et crise financière et sociale ?
Vous avez raison, c'est quelque chose de très important pour moi et pour nous à Alternative Économique. Il faut bien comprendre effectivement que cette crise, et en particulier dans sa dimension européenne, c'est non seulement une crise financière, mais c'est d'abord une crise des déséquilibres de la mondialisation, ça beaucoup de gens le disent, mais c'est aussi, et j'allais dire surtout, peut-être pas surtout, mais c'est aussi la première grande crise écologique du XXIe siècle. Hein. On s'en souvient guère tellement il s'est passé de choses entre-temps, mais au printemps 2008, l'économie française était déjà en récession avant que Lehman Brothers s'effondre, parce que les prix du pétrole et des matières premières, des matières agricoles en particulier, avaient déjà beaucoup augmenté avec la demande des pays émergents, etc., etc., faisant en sorte que le pouvoir d'achat des Français avait plongé. Donc ça nous avait déjà amené dans la récession. Et aujourd'hui, si on risque de retomber dans la récession, c'est certes parce qu'on a très très mal géré, on en a parlé longuement, la crise grecque depuis 2 ans, mais c'est aussi pour la même affaire. C'est aussi parce que les prix du pétrole et des matières premières se sont remis à augmenter au printemps 2011 et qu'ils ont à nouveau annulé le pouvoir d'achat des Français comme des Européens, C'est pour ça que fondamentalement, on risque d'être en récession. Alors quand on rajoute de l'austérité là-dessus, c'est mort, mais on était déjà, pour ces raisons fondamentales, au bord de la récession. Ça veut dire une chose, ça veut dire que l'Europe est dans une situation très particulière sur ce plan-là. C'est la zone au monde qui ne dispose plus sur son territoire de matières premières, d'énergie fossile, etc., etc., parce que nous, on l'a exploité plus que tous les autres depuis plus tôt que tous les autres, etc., etc. On ne peut sortir, espérer sortir de la crise que si on accélère la conversion écologique de nos économies. Hein. C'est pas un supplément d'âme, c'est une nécessité pour avoir un espoir de sortir de la crise. Sinon, à chaque fois, on retombera, comme ça a été le cas, à chaque fois qu'il y aura de la reprise sous l'effet de la demande des émergents, etc., on sera asphyxié par la hausse des matières premières, etc., etc. Donc c'est ce qu'il faut faire pour espérer sortir de la crise. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on va pas le faire dans chacun des États nationaux. Hein. Donc on prend le cas de la France. On avait pris des grandes orientations, enfin, avec le Grenelle de l'environnement en 2007. Bon, un des premiers effets de l'austérité, de la crise, etc., c'est de se dire on peut pas faire tout ça, il faut en faire beaucoup moins, etc., etc. Donc là, je pense que c'est une des choses qu'il faut faire aujourd'hui à l'échelle européenne, qu'on ne peut faire qu'à l'échelle européenne. Et je crois qu'on peut le faire, par contre, à l'échelle européenne, pour une raison particulière, c'est que je pense que c'est un des seuls domaines sur lesquels les Allemands puissent aujourd'hui accepter qu'on fasse davantage de choses ensemble, voire qu'on s'endette ensemble pour les faire. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de dettes publiques déjà en Europe, mais il y a quand même une différence entre la bonne dette et la mauvaise dette. Ça dépend de ce qu'on fait avec cette dette. Hein. Tout ce qu'on a fait dans les années 2000, c'est-à-dire d'abaisser les impôts des riches, s'endetter parce qu'on a abaissé les impôts des riches, ça a manifestement amené aucune croissance et activité économique supplémentaire, et ça a surtout fait monter la dette. Si aujourd'hui on s'endette pour accélérer la conversion écologique malgré la crise, c'est à mon avis un investissement très rentable pour l'Europe demain. Et on peut le faire si on le fait à l'échelle européenne. Je le disais déjà tout à l'heure en introduction, mais au niveau européen dans son ensemble, on est beaucoup moins endetté que les Américains. Je veux dire, si on fait un grand plan de 2 ou 3 points de PIB de l'Europe en s'endettant pour le financer, pour accélérer la reconversion écologique, on a les moyens de le faire. J'ajouterai une dernière chose là-dessus, c'est que ça a des effets redistributifs majeurs à l'intérieur de l'Europe. Mine de rien, la Grèce, par exemple, la Grèce reçoit une fois et demie autant de soleil que l'Allemagne, et elle produit aujourd'hui 30 ou 40 fois moins d'électricité, enfin d'énergie solaire. Hein. La Grèce est, avec la France, un des pays qui a jusqu'ici fait le moins d'efforts pour développer le renouvelable dans son mix énergétique.
Aussi, je suppose.
Donc si on fait ce genre de choses, ça veut dire aussi des transferts importants vers les Grecs. Ça veut dire aussi des transferts importants vers les Polonais, parce qu'ils ont encore tout un tas de vieilles usines héritées du temps soviétique, etc., etc. Donc ça veut dire aussi des effets redistributifs à l'intérieur de l'Europe. Alors vous évoquiez, effectivement, beaucoup de gens disent aujourd'hui ce qu'il faut pour l'Europe, si elle s'en sort, si elle survit à la crise actuelle, c'est qu'elle devienne plus sociale. C'est vrai que ça, c'est un point, j'y crois pas du tout. Hein. Je pense que le social s'est développé au sein des différents États nationaux depuis 2 siècles. C'est vrai que l'Europe est dans son ensemble la zone la plus sociale au monde. C'est vrai qu'on a tous des modèles sociaux qui se ressemblent. Mais même s'ils se ressemblent, ils restent quand même différents dans les détails. Et je ne crois pas du tout qu'on aille vers une Europe où il y aura demain une assurance chômage européenne, une assurance maladie européenne ou des trucs comme ça, comme il y a aux États-Unis, par exemple, hein, mine de rien. Donc je ne crois pas du tout que l'Europe puisse devenir sociale. Je pense que l'important, c'est qu'elle cesse d'être antisociale au niveau de son fonctionnement économique, dumping fiscal, etc., etc. Mais par contre, je crois qu'elle peut et qu'elle doit, et que la relance de l'intégration européenne se jouera autour de l'environnement, de l'énergie, de l'environnement, des politiques qu'on mènera dans ces domaines-là, ensemble. Je pense que, ça a failli être une taxe sur les transactions financières, mais je pense que le premier impôt qu'on acceptera de payer au niveau européen, ensemble, ce sera, à mon avis, une écotaxe quelconque.
D'accord. Et pour finir, une dernière question plus centrée sur la France. comment est-ce que vous voyez la situation de la France par rapport à la crise, par rapport d'une part à des pays qui posent problème, comme on les a évoqués, la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, et le pays dont on vante le modèle, peut-être à tort, comme vous le suggériez, l'Allemagne?
Oui, je pense qu'on a tort, effectivement, de se battre trop la coulpe. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la crise de la zone euro d'aujourd'hui était liée au déséquilibre qui s'était accru pendant les 10 premières années de création de l'euro. Ces déséquilibres, ils sont liés à deux dysfonctionnements parallèles. Donc vous avez des pays périphériques aujourd'hui en crise, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, selon des modalités différentes, qui se sont mis à vivre au-dessus de leurs moyens, à consommer plus qu'ils ne produisaient, etc., à s'endetter beaucoup, surtout de manière privée, mais à s'endetter beaucoup trop. Et de l'autre côté, vous avez l'Allemagne, mais aussi l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, des pays qui se sont serrés la ceinture beaucoup trop, qui se sont mis à vouloir exporter beaucoup, sans consommer beaucoup eux-mêmes, sans développer leur demande intérieure. Et ça a créé des problèmes qui sont les symétriques des problèmes des autres. C'est ça qui nous mène aujourd'hui dans la crise. Dans ce contexte-là, dans cette dynamique-là, la France n'a pas du tout à rougir de son parcours. C'est-à-dire que l'économie européenne, si vous prenez les principaux déterminants économiques de l'Europe, et si vous prenez ceux de la France, en gros, la France est à peu près sur toutes les dimensions dans la moyenne de l'Europe. Hein. Les seuls qui aient été raisonnables dans cette affaire pendant les 10 premières années de la zone euro, c'est nous, finalement. Et ceux qui ont à changer de modèle, c'est pas tellement nous, c'est les pays périphériques en crise, évidemment, qui doivent se serrer la ceinture, etc. Mais c'est aussi les autres qui doivent apprendre à soutenir un peu l'activité économique en développant leur demande intérieure. Donc là, je pense que ça... Enfin, ce qui fait qu'on ne le voit pas, c'est qu'il y a un domaine sur lequel on a déconné, si vous me permettez l'expression, durant ces 10 dernières années, c'est sur les finances publiques. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant que les autres, dans leur ensemble, limitaient plutôt leur endettement dans la première décennie de la zone euro, nous, on l'a laissé filer en faisant plus que les autres des baisses d'impôts pour les riches, etc., etc. Donc ça, c'est une bêtise, et c'est une bêtise qui, en particulier, affaiblit les dirigeants politiques français vis-à-vis des Allemands, pour leur dire « c'est vous qui devez changer, c'est pas nous ». Évidemment, dans un tel contexte, leur crédibilité est faible. Mais sur le fond, ça reste vrai. Je veux pas du tout dire qu'on n'a pas de problème. On a un problème énorme qui s'est beaucoup aggravé dans la crise, qui est celui de la compétitivité industrielle, de la désindustrialisation du pays. Ça, c'est un problème énorme. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps pour en parler.
Si vous en avez, nous, oui. Donc.
D'accord. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que c'est un problème multidimensionnel, évidemment. On a des très grandes entreprises, mais elles ont pris l'habitude souvent de vivre au crochet de l'État en liaison avec la commande publique. Et c'est plus difficile d'agir dans le cadre de la mondialisation parce que ça se traite plus entre énarques de la même génération qui étaient ensemble dans les cabinets ministériels et qui se retrouvent à la tête des grandes entreprises, etc., etc. On a trop de petites entreprises. C'est pas du tout qu'on n'ait pas assez d'entreprises. C'est plutôt qu'elles sont de taille trop petite dans leur ensemble. On a plein de problèmes dans ce domaine-là, mais je voudrais insister sur un problème particulier qui, je pense, joue un rôle un peu central dans ces affaires-là et qui est beaucoup dans le débat public, c'est sur la question du coût du travail. Je pense qu'une des raisons qui fait qu'on est en difficulté aujourd'hui, c'est la politique qu'on a menée depuis 30 ans en matière de coût du travail. C'est pas une question droite-gauche, hein. Je pense que tous les gouvernements successifs l'ont plus ou moins menée dans les mêmes termes, même si c'était avec des modalités un peu différentes, c'est de dire... On a beaucoup de chômeurs peu qualifiés. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de chômeurs peu qualifiés? Parce qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois peu qualifiés. Il faut créer davantage d'emplois peu qualifiés. Pour créer davantage d'emplois peu qualifiés, il faut abaisser le coût du travail à proximité du SMIC. Donc tout le monde l'a fait, au point qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cotisations sociales employeurs au niveau du SMIC. Ça n'a pas que des inconvénients, ça a en particulier un avantage qu'on souligne pas assez, même dans l'alternative économique, c'est que notre système social et fiscal est en fait beaucoup plus redistributif qu'on ne le dit généralement, à savoir qu'aujourd'hui, c'est les cotisations sociales des ingénieurs et des cadres qui financent l'assurance maladie des SMICAR. Hein. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, ça a eu de gros inconvénients. Le premier, c'est que c'est pas du tout... Les chômeurs peu qualifiés qui ont occupé ce type d'emploi, ils sont toujours dans la mouise, parce que régler le problème du chômage peu qualifié, et surtout du problème du chômage peu qualifié de longue durée, c'est pas une question de coût du travail, c'est pas en abaissant le coût du travail qu'on va le régler. Il faut former ces gens lourdement, les insérer progressivement sur le marché du travail dans des structures dédiées. Ça coûte cher, ça prend du temps, mais il y a pas moyen d'éviter ça. Les gens qui ont occupé ces emplois, c'est surtout des jeunes parallèlement, on avait poussé plus loin au niveau scolaire. Donc en même temps qu'on faisait ça, on dit on veut créer beaucoup d'emplois peu qualifiés. Et on en a créé en tout cas beaucoup d'emplois mal payés. On faisait le contraire au niveau des jeunes. On disait il faut former beaucoup plus les jeunes, les qualifier davantage, etc., etc. Et c'est ces jeunes-là qui ont occupé ces emplois-là. Ce qui crée des frustrations sociales et politiques importantes, durables. Les gens ont l'impression d'être déqualifiés, etc., etc. Vous connaissez ces affaires. Mais surtout sur le plan industriel, ça nous a amené à rechercher, c'était pas voulu, je pense, mais à avoir une insertion bas de gamme dans la division internationale du travail. C'est-à-dire que ça nous a été plutôt favorable durant toutes les années 90. Les années 90, c'est une période où la France attire les capitaux étrangers, attire les gens qui cherchent à faire des usines tournevis, en gros, pour desservir l'Europe des 15. C'est l'époque où Daewoo s'installe en Lorraine, où Toyota s'installe à Valenciennes. Moi, il y a une histoire industrielle qui me paraît toujours très, très illustrative de tout ça. C'est l'histoire de la Smart. C'est donc la petite voiture qu'on trouve maintenant dans les villes. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est un monsieur Hayek, un Suisse, qui avait eu l'idée au départ. C'est un monsieur qui avait inventé les montres Swatch. Donc c'est un monsieur qui avait sauvé l'industrie horlogère suisse, non pas en allant pleurer à Berne en disant que le coût du travail était trop élevé. C'est vrai qu'il est très élevé en Suisse, encore plus qu'en France, mais en ayant une bonne idée. Et en disant, on va faire des montres, elles sont toutes pareilles, mais avec 2-3 éléments qu'on pourra différencier simplement, on va en vendre aux vieux, aux jeunes, on va en vendre en hiver, au printemps, suivant les différentes modes, aux mêmes gens, etc., etc. Et ça avait très bien marché. Il avait sauvé l'horlogerie suisse. Il avait plein de sous. Et il s'est dit, pourquoi je ferais pas pareil avec les bagnoles? Il n'était pas fou. Il savait que faire des bagnoles, c'était pas pareil que de faire des montres. Il s'est mis en quête d'un fabricant de voitures. Et après un tour d'Europe, il a atterri chez les Allemands, chez Mercedes. Donc ils ont créé une société commune. Ils ont mis la finance et le commerce en Suisse. Ils ont mis le bureau d'études dans le sud de l'Allemagne, à Stuttgart. Et puis est venu le moment, où est-ce qu'on met l'usine? Où est-ce qu'on met l'usine? En France, en Lorraine. Parce que là, vous avez des gens qui coûtent pas cher. Vous avez des bonnes infrastructures publiques. Et en plus, vous avez des subventions quand vous venez en Lorraine. Donc c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc cette histoire me paraît illustrative du type d'insertion dans la division du travail qu'on avait eu dans les années 90, grâce notamment à cette politique de coût du travail. Ce jeu-là, attirer les capitaux étrangers qui cherchent du travail pas cher pour visser des boulons, enfin pour des usines tournevis, c'est un jeu... qu'on peut jouer, enfin qu'on pouvait gagner dans l'Europe des 15. On était moins cher que les Belges, que les Allemands, etc., etc., même que les Anglais. Hein. Mais c'est un jeu auquel on peut plus jouer dans l'Europe des 27, si vous voulez. Quand on joue sur ce terrain-là, les Polonais, les Roumains sont beaucoup mieux que nous, et sans parler des Chinois, bien sûr. Mais simplement, pendant qu'on faisait ça, notamment pour la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a abaissé le coût du travail à proximité du SMIC, mais on n'a pas rogné pour autant massivement sur notre protection sociale, donc il fallait bien payer tout ça. On a rendu notre coût du travail qualifié, plutôt plus cher que les autres. Hein. Donc un ouvrier allemand, malgré tous les efforts d'austérité qu'ils ont fait, ça coûte aujourd'hui encore de l'ordre de 15 à 20% plus cher qu'un ouvrier français. Un ingénieur allemand est plutôt moins cher qu'un ingénieur français. Hein. Donc sur le plan du coût du travail, on s'est compliqué la vie du côté du travail qualifié, du côté de l'innovation, etc. etc. On s'est compliqué la vie et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Hein. Donc on est effectivement dans une situation très difficile sur le plan de l'industrie, enfin industrielle. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Bon, les affaires genre pôle de compétitivité sont utiles, etc. Mais ça ne peut avoir d'effet qu'à moyen terme.
Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Guillaume Duval, pour toutes ces réponses à nos questions. Donc, je rappelle à nos auditeurs que votre ouvrage « La France d'après » est toujours disponible. Je ne sais plus chez quel éditeur.
C'est les éditions des Petits Matins.
Voilà, chez les éditions des Petits Matins. Et donc, je signale aussi le numéro de ce mois-ci d'Alternatives économiques. « Crise de l'euro, les solutions au banc d'essai » avec un dossier spécial de 20 pages où les journalistes de l'Alternative économique passent un petit peu à leur crible toutes les solutions proposées pour sortir de la crise. Je vous laisse sur ces belles paroles.
Édition spéciale, Transistor, aux journées de l'écho.